Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Très étrange de se retrouver avec un cortège réduit et sans la participation des familles ou des Parisiens qui viennent d'habitude nombreux.
Les commémorations du 13 novembre au temps du confinement, cérémonie en petit comité, émotions et traumatismes ravivés pour les rescapés 5 ans après les attentats de Paris et Saint-Denis. Une première médicale en France, une greffe pulmonaire sur un malade du Covid dont les poumons avaient été quasiment détruits par le virus. Le calice jusqu'à la lie pour les restaurateurs, ils ne rouvriront pas le 1er décembre et doivent en plus batailler avec leurs assureurs. En cause, l'annulation dans tous les contrats des clauses indemnisant les pertes liées à la pandémie. Nous entendrons la colère d'un grand chef et les justifications d'AXA. La colère, froide, celle-là, de Nicolas Sarkozy. L'ancien président s'est exprimé ce soir sur les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007 et la volte-face de Ziad Takieddine. Dans ce journal également, le démantèlement d'un vaste réseau de blanchiment, du trafic de drogue, les malfrats brassaient jusqu'à 90 millions d'euros par an. Il n'y a pas eu de fraude lors de la présidentielle américaine, verdict des agences chargées de la sécurité des élections. Et puis le Vendée Globe avec deux vieux loups de mer en tête. Le temps de demain, agité sur le nord-ouest, gris sur les bords de la Méditerranée, mais printanier partout ailleurs, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en légère hausse, plus 0,33% à 5380 points. Tous les détails à venir avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview éco dans 20 minutes et cette information étonnante vu le contexte économique. Les offres d'emploi sont en forte hausse. Emmanuel Duteil en parlera avec son invité ce soir, David Beaurepaire, directeur délégué de Hello Work. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a donc 5 ans, jour pour jour, et à cette même heure, la France plongeait dans une soirée d'horreur. 130 vies fauchées et 350 blessés devant le Stade de France, à des terrasses de café et dans la salle du Bataclan. 13 novembre 2015, une sombre date à jamais gravée dans la mémoire collective. Noir est d'ailleurs ce soir le ciel de Paris, privé de son phare. La Tour Eiffel a été éteinte. Dernier hommage d'une journée ponctuée par des commémorations clairsemées, confinement oblige. Le Premier ministre et la maire de Paris notamment se sont rendus ce matin sur les lieux des attentats en compagnie des associations de victimes. Arthur Desnouveaux est le président de Life for Paris.
On est donc parti du Stade de France où on a fait la première cérémonie et à chaque endroit en fait on a lu les noms des victimes décédées et fait une minute de silence en hommage à toutes les victimes. On a marché entre certains lieux qui étaient proches dans le 11e et sinon on a pris un espèce de mini cortège officiel pour aller d'un lieu à l'autre. C'était très étrange de se retrouver avec un cortège réduit et sans la participation des familles ou des Parisiens qui viennent d'habitude nombreux. Il manquait une dimension fraternelle et communautaire qu'on a d'habitude, nous les victimes, le 13 novembre. Les hommages étaient retransmis sur Twitter et sur Facebook en live, ce qui permettait aux familles qui le souhaitaient de pouvoir se connecter et suivre ça depuis chez elles. Et puissent se sentir faire partie d'un tout un peu plus grand que chacun d'entre nous. Ce qu'on voit, c'est qu'au 11 septembre, les commémorations perdurent et on dit souvent que le 13 novembre est un peu le 11 septembre français.
Le président de Life for Paris au micro européen de Chloé Triomphe. Cette journée d'hommage ne saurait faire oublier que depuis le 13 novembre 2015, 20 attentats ont eu lieu en France. Le dernier en date, c'était il y a 2 semaines, l'attaque à Nice qui a fait 3 victimes. Le parquet national antiterroriste a ouvert aujourd'hui une information judiciaire. Les enquêteurs ont retrouvé dans le téléphone portable de l'assaillant 2 nouveaux éléments. Une photo du tueur islamiste de Samuel Paty et un message audio qualifiant la France de pays de mécréants. La France qui poursuit sa lutte contre le terrorisme. Florence Parly, la ministre des Armées, a annoncé ce matin la neutralisation d'un haut cadre d'Al-Qaïda au Mali. Et puis à l'instant, l'état-major annonce que plusieurs dizaines de djihadistes ont été tués au Mali par la force française Barkhane. Venons-en maintenant à cette première en France depuis le début de l'épidémie. Une opération très risquée qui a eu lieu à l'hôpital Foch de Suresnes. Une greffe pulmonaire réalisée sur un patient dont les poumons avaient été quasiment détruits par le coronavirus, Victor Delande.
Oui, ce patient avait été hospitalisé au CHU de Lille. Il a passé plusieurs semaines en réanimation, dans le coma, sous ventilation respiratoire. Les médecins ont ensuite tenté l'oxygénation extracorporelle de son sang, mais rien n'y a fait. Son état s'est dégradé au fil des semaines. Seule solution, donc, pour le sauver, la transplantation pulmonaire. Comme il n'avait pas de comorbidité, l'opération était possible. Elle a eu lieu le 1er novembre dernier. Ça s'est très bien passé. Le patient va bien, comme l'explique le professeur Édouard Sage, chirurgien thoracique à l'hôpital Foch de Suresnes.
On s'attendait à ce que ça puisse être plus difficile que ça, mais ses deux poumons fonctionnent parfaitement. Ça, c'est une première victoire. La deuxième, c'est qu'on est face à un malade qui a eu beaucoup de semaines de réanimation avant. Donc, il a toutes les conséquences de ça aussi engendrées, auxquelles on y rajoute une intervention extrêmement lourde. Donc, c'est sûr qu'il va bien, mais il va falloir beaucoup de récupération et plusieurs semaines encore d'hospitalisation, pour pas dire plusieurs mois avant qu'il se rétablisse.
C'est une première en France, pas dans le monde. Il y a déjà eu des greffes similaires sur au moins un patient aux États-Unis. On recense aussi un cas en Chine. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type d'opération reste exceptionnel. Mais selon le chirurgien qui a réalisé cette prouesse, c'est une arme supplémentaire et donc une source d'espoir pour les patients qui font des formes très graves du SARS-CoV-2.
Merci Victor Dolande. Pour les mesures de confinement, rien ne bougera avant le 1er décembre, a confirmé hier soir Jean Castex. Les commerçants espèrent pouvoir tenir jusque-là. Pour les restaurateurs, en revanche, pas d'éclaircie en vue à l'horizon. Ils ne rouvriront pas, quoi qu'il en soit, après le 1er décembre. Et comme si cela ne suffisait pas, certains doivent se battre avec leurs assurances pour garder le bénéfice dans leur contrat d'une clause pandémie. Clause que toutes les assurances ont décidé unilatéralement d'annuler, Clément Le Saffre.
Oui, tout a commencé par un courrier envoyé par les assureurs aux restaurateurs ces dernières semaines. À l'intérieur, un avenant à leur contrat qui exclut l'indemnisation pour cause de pandémie. Il faut préciser que ça concerne 7% des restaurateurs, ceux dont le contrat d'assurance mentionne le risque d'épidémie. Ça fait quand même plusieurs dizaines de milliers d'établissements en France. Parmi eux, le chef étoilé Yves Candebord. Il accuse sur Europe 1 les assureurs de manquer à leurs devoirs.
Le fait de faire cet avenant, ils sont en train de justifier que cette clause, elle est réelle. Moi, le signer, j'ai envie de vous dire, dans l'avenir, oui, je vais être dans l'obligation de le signer parce que toutes les assurances vont me l'imposer, mais que les assurances prennent leur responsabilité et d'assumer une clause qu'on avait signée dans nos contrats.
Alors, les assureurs se défendent, hein, ils ne font qu'appliquer une recommandation de leur autorité de régulation, nous disent-ils, et ils ont une pression supplémentaire. À partir de l'année prochaine, eux-mêmes ne seront plus assurés pour les contrats incluant une indemnisation en cas de pandémie par ceux qui les assurent, les réassureurs. Sans ce parachute, les compagnies d'assurance sont donc obligées de répercuter la décision sur leurs clients. Les restaurateurs ont donc jusqu'au 31 décembre pour accepter ou refuser l'avenant. S'ils refusent, leur contrat sera résilié d'office. Ils devront changer d'assureur, mais toutes les compagnies sont sur la même ligne. L'an prochain, la pandémie ne pourra figurer sur aucun contrat.
Clément Le Saffre, et justement le directeur général délégué d'AXA France, était ce soir l'invité de Julien Bugier sur Europe 1. Pour Guillaume Bory, l'équation pour les assurances est devenue impossible en ces temps de pandémie.
La colère et la détresse des restaurateurs, évidemment que je la comprends. Ils sont confrontés à une situation qui est absolument terrible, qui dure maintenant depuis mars dernier. Mais vous comprenez bien que l'assurance, le principe, c'est que ça fonctionne quand il y a une majorité de biens portants et quelques-uns qui ont des difficultés. Quand le risque est généralisé, comme ce que nous connaissons depuis mars dernier, pour la première fois dans l'histoire depuis 100 ans, quand on est dans cette situation, l'assurance ne sait pas faire. On ne sait pas couvrir un risque qui fait que tout le monde est touché en même temps.
Oui.
Et donc c'est exactement ce qui se passe, et c'est exactement ce que disent nos contrats. Ils disent, lorsqu'il y a une fermeture généralisée, dans le cas des restaurateurs, eh bien, malheureusement, vous n'êtes pas couvert. Aucun assureur ne peut couvrir seul un événement comme une pandémie qui touche le monde entier.
Le directeur général délégué d'AXA France, qui était ce soir l'invité du 18-20 d'Europe 1. Le prix Goncourt sera finalement remis le 30 novembre, soit la veille du 1er décembre, et la possible réouverture des librairies, comme l'a laissé entrevoir hier Jean Castex. Et c'est en tout cas ce qu'espèrent les académiciens qui remettront le prix dans tous les cas, même si les librairies devaient rester fermées encore davantage. Reporter les élections régionales et départementales de mars à fin juin 2021 serait une option raisonnable, préconisation du rapport commandé par l'exécutif et remis aujourd'hui par Jean-Louis Debré. Dans ce document, l'ancien président du Conseil constitutionnel invite Jean Castex à rendre sa décision dans un très bref délai.
Europe Soir, le 22-22-30.
On vous en parlait ces derniers jours dans ce même journal, la volte-face de Ziad Takieddine, le principal témoin à charge contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire du supposé financement libyen de sa campagne de 2007, s'est rétracté. Il déclare désormais n'avoir jamais remis d'argent libyen à l'ancien président. Eh bien, Nicolas Sarkozy s'est exprimé ce soir à ce sujet chez nos confrères de BFM Télé.
Je suis partagé entre une colère froide dont vous n'imaginez pas la profondeur et la force. Et je demande à chacun de ceux qui nous regardent, qu'ils aient voté pour moi ou pas, qu'ils m'aiment ou pas. Est-ce que c'est normal qu'un ancien président de la République soit traîné dans la boue, comme je le suis depuis 8 ans, sur les seules déclarations d'un individu qui a menti et qui vient aujourd'hui dire « j'ai menti ». J'ai menti parce que le juge m'a demandé de le faire pour arranger mes propres affaires. Je suis stupéfait.
La colère froide ce soir de Nicolas Sarkozy. C'est un nouveau coup dur pour les finances de l'État qui n'avait pas vraiment besoin de cela. Bercy va devoir verser à Orange 2,2 milliards d'euros. Le Conseil d'État a tranché en faveur de l'opérateur téléphonique dans un très long contentieux fiscal. Des chiffres qui donnent le vertige et qui montrent les fortunes d'argent sale générées par les trafics de drogue. La gendarmerie a démantelé un réseau de collecteurs de fonds, 18 personnes interpellées qui, chaque année, brassaient quelques 90 millions d'euros, Guillaume Bier.
Oui, encore, c'est l'estimation basse des enquêteurs, hein, mais c'est ce qui les a incités, eux et la justice, à s'attaquer au trafic, non pas par la saisie de la drogue, mais par le circuit financier, les bénéfices. En clair, faire tomber ce réseau de blanchiment, des collecteurs de fonds qui récupéraient l'argent du trafic de drogue un peu partout en France, des gros sacs de billets transportés par camion vers le Maroc, raconte le colonel Laurent Le Saffre, qui commande la section de recherche de Lyon.
Le trafic était organisé autour d'un transporteur routier qui utilisait une flotte de camions commerciaux qui transportaient d'autres marchandises. Et l'argent était donné aux conducteurs de ces camions qui rassemblaient l'argent et le transportaient en toute discrétion. Nous avons estimé que ce trafic générait à peu près un flux de 90 millions d'euros sur une année.
Des sommes astronomiques en petites coupures renvoyées au Maroc pour payer les producteurs de cannabis. L'affaire a mobilisé une cinquantaine d'enquêteurs à temps plein pendant un an et demi. Et en plusieurs coups de filet, les gendarmes ont arrêté au total 18 suspects et saisi plus de 4 millions d'euros en espèces et en biens immobiliers. C'est ce qu'on appelle des avoirs criminels qui sont placés, gérés en attendant le procès et qui finiront dans les caisses de l'État après condamnation.
Et c'est une bonne nouvelle. Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Un adolescent de 16 ans poignardé à plusieurs reprises ce matin près d'Angers. Le jeune homme inconnu des services de police a été transporté à l'hôpital dans un état grave, mais ses jours ce soir ne sont plus en danger. Ces trois agresseurs ont pris la fuite en voiture. La police judiciaire d'Angers est saisie de l'enquête et étudie de près la piste d'un règlement de compte. Aux États-Unis, les médias américains affirment ce soir que Joe Biden a remporté au final 306 grands électeurs contre 232 pour Trump. Après l'Arizona ce matin, qui après dépouillement des votes a basculé en faveur de Biden, le président élu l'emporte également en Géorgie. Donald Trump s'empare de son côté de la Caroline du Nord. C'était les deux derniers États où les résultats de la présidentielle n'avaient pas encore été prononcés. Victoire éclatante donc pour Joe Biden qui, cerise sur le gâteau, a été conforté ce matin par un communiqué des agences chargées de la sécurité des élections. En résumé, Sonia Dridi, aucune preuve de triche.
Oui, l'élection du 3 novembre était la plus sûre de l'histoire des États-Unis. C'est ce qu'affirment des agences américaines chargées de la sécurité des élections. Alors que Donald Trump continue de crier à la fraude, elles assurent qu'il n'y a eu aucune preuve d'un piratage de la présidentielle. Trump a déclaré sur Twitter qu'un système électoral avait effacé 2,7 millions de votes en sa faveur à travers le pays et en avait réattribué des centaines de milliers à son rival démocrate Joe Biden. Des informations infondées, mais côté républicain, très peu osent élever la voix et contredire le président. Seule une poignée d'élus ont reconnu la victoire de Joe Biden. Le refus de l'administration Trump de reconnaître sa défaite est sans précédent. Dans une interview à la télévision américaine, Barack Obama a déclaré que cela constituait un dangereux chemin qui décrédibilisait la démocratie en Amérique. Donald Trump est bien décidé à continuer la bataille juridique jusqu'au bout. Frustré, il n'a pas eu le moindre échange avec des journalistes depuis le jour de l'élection, ce qui n'est pas dans ses habitudes.
Merci Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Donald Trump qui va s'exprimer ce soir pour la première fois depuis sa défaite, non pas au sujet de l'élection, mais sur le vaccin contre le Covid-19. L'allocution doit débuter d'un instant à l'autre. On termine ce journal avec le Vendée Globe, mené ce soir par deux vieux briscards, deux marins très expérimentés qui pour l'heure font un joli pied de nez à la jeune garde. Alex Thompson, 46 ans, suivi de près par Jean Le Cam, 61 printemps, et tout étonné d'être si bien placé.
On est quand même à 4 jours de course et puis je suis en même temps que dans le groupe de tiercé, quoi. Donc c'est pas normal. Hein. Mais comme quoi, on prévoit toujours plein de choses et on se gargarise, on fait des articles dans les journaux, on fait tatitater, blablabla. Et en fait, bien dire fait rire, bien faire fait taire. J'ai quand même trouvé ça, je voulais l'écrire en gros dans mon bateau. parce que voilà, bon, après maintenant ils vont quand même beaucoup plus vite que moi, hein, c'est sûr, hein, donc il y a un moment. Mais tant qu'à faire, Papy fait de la résistance, quoi.
Papy le Cam qui fait donc de la résistance, deuxième au classement du Vendée Globe ce soir. Il n'y aura pas de 15 de France contre les Fidji dimanche. Le match prévu à Vannes est annulé en raison de cas de Covid au sein de l'effectif fidjien. Et puis en foot, pas d'annulation en Ligue 1, mais un report. Marseille-Nice qui devait se jouer le 21 novembre sera reprogrammé à une date ultérieure. Là aussi, plusieurs cas positifs au sein des Aiglons. La météo. Anissa Haddadi, le temps de demain sera agité dans le nord-ouest.
Oui Julien, encore très agité effectivement avec demain matin en Bretagne sur le Cotentin, ciel couvert avec des averses. Dans l'après-midi, les pluies sont beaucoup plus présentes et le vent du sud se renforce sur les côtes de la Manche avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Demain, la journée débute avec encore de nombreux nuages bas le long de la façade atlantique sur toute la moitié nord du pays. Des brouillards qui seront par endroits très épais. Au bord de la Méditerranée et sur les Cévennes, il pleut. Le temps va rester gris hein, au bord de la Méditerranée, surtout sur le Languedoc. Donc c'est un temps agité, vous l'avez compris, en Bretagne et au bord de la Méditerranée. Partout ailleurs, le soleil s'impose dans l'après-midi. Les températures, elles sont un petit peu plus fraîches dans le nord-est demain matin avec 5 à 8 degrés. 8 à 12 degrés partout ailleurs. Et puis dans l'après-midi, les maximales sont toujours douces pour la saison. 15 à 18 degrés sur la moitié nord, nous aurons 17 degrés à Paris et 18 à 22 dans le sud.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Claire Lemaître de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Et cette information étonnante, il y a de plus en plus d'offres d'emploi étonnantes au regard du contexte économique. Et Emmanuel Duteil reçoit tout à l'heure, je n'ai pas le nom sur la feuille, donc je vous le dirai tout à l'heure. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street, toutes les infos de la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street termine la semaine sur une note positive malgré la progression du coronavirus, tant en Europe qu'aux États-Unis.
Ouais, c'est du vert, plus 1,37% pour le Dow Jones à 29 479 points. Le Nasdaq, lui, gagne 1%, 11 829 points. Les investisseurs restent donc optimistes et ils croient depuis le début de la semaine à la mise au point d'un vaccin contre le Covid qui permettrait une accélération de la reprise économique. On a aussi des résultats meilleurs que prévus pour deux poids lourds de Wall Street. D'abord, Walt Disney. Son offre en ligne Disney Plus fonctionne bien. Le titre bondit de 2%. Et puis Cisco flambe de 7%. Et là, c'est le boom du télétravail qui dope la demande pour les équipements de réseau du groupe. Le pétrole corrige de 2% après un bond tout de même de plus de 13% depuis le début du mois de novembre. Et puis l'euro est en petite hausse, gain de 0,2%, 1,1832 $.
À Paris aussi, l'optimisme est là et le CAC 40 termine la semaine dans le vert.
Oui, l'indice repart de l'avant après une pause hier. Petite hausse de 0,33%, 5380 points. Le bilan est excellent pour le CAC 40 qui a grimpé de plus de 8% sur la semaine, dopé par les avancées essentiellement dans la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Engie bondit de 3,2% après ses résultats trimestriels. L'énergéticien a confirmé ses perspectives pour cette année. Et puis Renault aussi grimpe, plus 5,6%, toujours dopé par l'embellie des performances chez son partenaire Nissan.
L'immobilier commercial conclut une semaine euphorique.
Oui, le secteur a beaucoup souffert depuis le début de la crise et il profite à plein de l'enthousiasme des marchés pour faire son retard. La foncière Klépierre a repris plus de 60% sur la semaine et Unibail Rodamco Westfield a flambé de plus de 40%. Ailleurs en Europe, la hausse l'emporte à l'exception de Londres qui perd 0,4%. Francfort gagne 0,2%, Madrid plus 0,7%, Milan plus 0,4%. Et à Paris, le CAC 40 gagne 0,3%, 5380 points.
Merci beaucoup Claire, Claire Lemaître de boursier.com et à lundi. 22h30. 22h21 sur Europe 1, passe à l'interview Écho. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir David Borpère.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur délégué de Hello Work. C'est quoi Hello Work? Eh bien, c'est aussi bien Cadreo, Joby Joba, Paris Job, Région Job, donc des sites pour trouver du travail. Et c'est justement pour ça que nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, parce que j'ai été impressionné par un chiffre. Vous dites que sur vos sites, vous avez en ce moment plus de 20% d'offres d'emploi en plus par rapport à l'année dernière. Dans la période que l'on vit, ça paraît impensable. Comment vous l'expliquez?
En fait, on l'explique parce que le secteur et le marché de l'emploi, qui a certes été très très fortement impacté au cours du premier confinement, avec une baisse de l'ordre de 40% des offres d'emploi, hein, que ce soit en CDI, en CDD ou des missions d'intérim, l'est beaucoup moins lors de ce deuxième confinement. Donc on a une baisse du côté des candidats, petite, qui est de l'ordre de 5 à 10%. En revanche, du côté des recruteurs, c'est beaucoup moins le cas. Alors certes, il y a des secteurs qui sont très impactés, mais au global, on constate là, actuellement, à date, hein, on a plus de 100 000 offres en CDI, en CDD qui sont en ligne, et plus de 80 000 missions d'intérim.
Mais ce que je trouve impressionnant, pardonnez-moi d'insister, c'est que les chiffres que l'on compare, c'est là, en 2020, par rapport à 2019. Tout allait bien fin 2019. On avait un marché de l'emploi extrêmement dynamique, on n'arrivait même pas à trouver suffisamment de candidats pour faire face aux offres d'emploi. Comment là, on peut légitimement expliquer que les entreprises chercheraient à ce point-là des candidats dans cette période si particulière?
Alors, vous avez divers types d'entreprises et divers types de secteurs. Le secteur du BTP, par exemple, a été créateur d'emplois au troisième trimestre 2020. Et donc, ce sont des secteurs d'activité qui sont amenés à recruter avec certaines difficultés de recrutement dans certains bassins d'emploi et donc un volume d'offres d'emploi qui augmente. Par ailleurs, vous avez un autre sujet qui est que, malgré une digitalisation qui s'est faite assez rapidement pour ce qui est du recrutement, ça n'est pas encore le cas partout, et le confinement a accéléré aussi, en tout cas la première phase, a accéléré cette digitalisation et donc une bascule qui est de plus en plus maintenant exhaustive des offres d'emploi sur Internet.
Et ça suffit à ce point-là à faire bondir les offres d'emploi quand, à côté, plein de secteurs ne recrutent pas? Je vais prendre un exemple, là, juste avant Noël, je pense qu'il y a énormément de secteurs qui, en ce moment, n'ont pas pris les missions d'intérim qu'ils auraient pris normalement pour faire face à un afflux de clients qui sera sûrement moindre.
Alors, tout à fait d'accord, il y a des secteurs d'activité qui sont fortement impactés. Donc, on parle naturellement du secteur de la restauration, du secteur de la distribution. On constate qu'il y a d'autres secteurs, l'import-export et évidemment l'industrie aéronautique qui sont très, très fortement impactés. Et à côté de ça, vous avez des secteurs qui ont de très, très forts besoins de recrutement. Le secteur de la santé, le secteur des services à la personne et par ailleurs d'autres métiers comme toutes les fonctions informatiques de développement notamment. Et puis également les métiers de la comptabilité, de la gestion, de la finance, pour optimiser la trésorerie des entreprises. Donc on voit qu'il y a, c'est pas une situation uniforme et qu'en fonction des situations et des secteurs et des bassins d'emploi, les chiffres évoluent.
Alors par exemple, parlons bassin d'emploi, tiens, puisque vous avez notamment le site Région Job, hein, qui est un des leaders en la matière. Où est-ce que ça va le mieux?
L'Île-de-France, qui reste naturellement en tête, même si son leadership n'est pas contestable, mais ça moindrit quelque peu, et on voit que c'est surtout la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est elle-même en croissance, et la région Grand Est également. Donc on a ces trois régions-là qui se portent relativement mieux, en tout cas par rapport aux autres régions. En revanche, on a des régions qui souffrent un petit peu plus. La région Occitanie, et là, l'impact, notamment dans le secteur aéronautique, est très, 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 très fort. Et la région PACA également, et puis les Hauts-de-France.
Je rappelle que vous êtes le directeur délégué de Hello Work. Je redonne quelques-unes de vos marques. Adreo, Joby Joba, Paris Job, Région Job. Ça fait donc de vous un observateur averti de ce qui se passe en ce moment sur ce marché de l'emploi. On l'entend, donc ça va plutôt bien. Ça peut étonner. Est-ce que les offres et la demande se retrouvent? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des candidats qui répondent à ce que cherchent les entreprises? Ou ce qui explique cette hausse et ce nombre important d'offres, c'est qu'il n'y a pas de gens suffisamment formés sur les métiers recherchés?
Alors, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que sur nos plateformes, nous avons à la fois des personnes qui sont sans emploi et en recherche d'emploi, et puis des personnes qui souhaitent soit changer d'emploi, soit changer de région, donc changer d'environnement. Donc, on a ces deux éléments-là. Et là où, au cours du premier confinement, où tout s'était un petit peu gelé, en tout cas notamment dans les premières semaines, c'est là beaucoup moins le cas, notamment depuis la rentrée de septembre, où nous avons eu un record de candidatures émanant à la fois de personnes à la recherche d'un emploi, mais aussi de personnes qui sont justement dans un souhait de changement et de mobilité, avec plus de 2 millions de candidatures envoyées auprès de nos clients. Donc les candidats sont à nouveau dans cette démarche de mobilité. C'est peut-être un tout petit peu moins le cas là début novembre, mais on voit que ce deuxième confinement n'est quand même pas du tout à l'image du premier.
Oui, parce que ça semble être le cas dans beaucoup de secteurs, finalement, et j'aime pas cette expression, mais on a appris, et le premier confinement sert aujourd'hui un peu d'exemple, on a mis des processus en place, Et aujourd'hui, on arrive, même si la situation dans plein de secteurs reste cataclysmique, on arrive à vivre et à travailler, je vais dire un peu normalement, je vais sûrement énerver pas mal de gens en disant ça, mais ça veut dire que par exemple dans la recherche d'emploi, ça fonctionne.
On apprend à vivre avec. Après, on est bien d'accord qu'il y a certains secteurs pour lesquels c'est effectivement totalement cataclysmique. C'est pas le cas dans tous les secteurs. C'est simplement, il faut avoir cette vision un petit peu différenciée. Et si on reprend les chiffres du deuxième trimestre, c'est la DARES qui nous expliquait qu'il y avait eu plus de 3 millions de contrats qui avaient été signés, donc un peu plus de 500 000 CDI et 2 500 000 CDD au cours du deuxième trimestre 2020. Donc, on voit que même dans un trimestre qui a été partiellement, en tout cas, sur une période fortement confinée, les contrats et les embauches se poursuivent parce que l'activité économique...
Mais pourtant, là, ce que l'on vient de voir, si on prend là aussi les chiffres de l'emploi, ce que l'on vient de voir sur le troisième trimestre cette fois, c'est une forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi.
Tout à fait, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de la mobilité et des flux. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir au global des destructions et des créations d'emplois. Et sur la fin du troisième trimestre, on a effectivement une destruction de plus de 200 000 emplois. Et donc, nécessairement, cela a induit du chômage en plus. En revanche, vous avez des personnes qui continuent de démissionner, qui retrouvent un emploi, des fins de mission. Ce flux se poursuit. En revanche, au global, on a un impact économique qui était évident et qui est très très fort, et une situation d'emploi qui va continuer de se dégrader dans les prochains mois.
Concernant cette fois les salaires, hein, puisque quand tout va bien, on sait que là, il y a une petite marge de négociation pour les candidats. Là, on le voit, même s'il y a beaucoup d'offres, la période est quand même plus compliquée. Est-ce que du coup, c'est moins facile de négocier son salaire ?
Sur certains métiers, la période actuelle n'est pas propice à la négociation, à la hausse sur la rémunération. Ensuite, ça dépend de la situation propre au métier et au bassin d'emploi.
Eh bien, merci en tout cas, David de Bourpère. Je rappelle que vous êtes le directeur délégué de Hello Work. Hein, Hello Work, c'est donc aussi bien Cadreo, Jobijoba, Paris Job, Région Job. Et on l'entend, si vous recherchez en ce moment du travail, il y a des secteurs qui recrutent en ce moment. Un grand merci d'avoir été en ligne avec nous. On se retrouve lundi, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Interview Echo à retrouver sur notre site europe1.fr.
C'était l'invité Echo avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite sur Europe 1. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Vaccin, le tube de l'hiver, titre en une Libération. Après les annonces prometteuses de ces derniers jours sur le front vaccinal, Libé fait le point sur les recherches en cours et tout ce qui nous attend dans les mois à venir en France et dans le monde. Conclusion de cette enquête, non, nous ne serons pas tous vaccinés contre le Covid au printemps, c'est illusoire. Seuls les soignants et les personnes à risque devraient l'être dans un premier temps. Il n'en reste pas moins que la simple existence d'un vaccin efficace à 90%, alors que la pandémie s'est déclenchée il y a moins d'un an, est en soi une prouesse de la science, rappelle Dov Alphon dans son édito. À titre de comparaison, 9 ans ont été nécessaires pour développer un vaccin contre la rougeole après l'isolement du virus en 1954 et plus de 20 ans ont passé avant qu'un vaccin contre la polio soit approuvé. États-Unis, la transition Trump-Biden paralysée, titre de son côté Le Figaro. Tant que Donald Trump refuse d'admettre sa défaite, la période de transfert de pouvoir ne peut s'ouvrir. La loi de 1963 qui régit ces 11 semaines de transition est totalement gelé et ce cas de figure, celui d'un président sortant mauvais perdant, n'avait jamais été anticipé, à lire donc demain dans le Figaro.
Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.